On va avoir une élocution très formidable aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. On a eu une semaine un peu chargée. Mais voilà. Seigneur pourvoit. Alors vous savez sans doute qu'un bon message est un message court.
Merci, amen.
Et qui de plus met en valeur une exhortation, un encouragement, un mot d'ordre, diraient les syndicalistes, de la part du Seigneur. Alors, je ne sais pas si le message sera bon, mais en tout cas, j'espère qu'il sera court. Et je vais vous inviter à examiner un des 10 commandements en le replaçant dans son contexte. Nous sommes au mont Sinaï, dans le livre de l'Exode, que je vous invite à chercher dans vos Bibles si vous les avez. Et si vous avez comme moi la curiosité de lire le chapitre 19 d'Exode, eh bien, vous verrez que Dieu ne lésine pas sur les moyens quand il a quelque chose d'important à dire. C'est un peu comme à l'Élysée, il paraît qu'il y a des gens qu'on paye, qu'on appelle des communicants, pour mettre en œuvre la communication du président. Bon, ça n'a pas l'air de très bien marcher en ce qui concerne l'Élysée, mais en tout cas, en ce qui concerne Dieu, ça marche très fort. Moi, je l'ai relu ce matin, vers 4h30 du matin, et c'était bien, parce que souvent, quand on lit la Bible, c'est... Préoccupé par tout un tas de choses dans la journée, entre deux tâches. Et la nuit, il y a quelque chose de particulier, je pense, où on est plus concentré et on lit mieux le texte. En tout cas, je vous conseille de faire l'expérience. Alors, nous sommes 3 mois après la sortie mouvementée du pays d'Égypte, et Dieu annonce à Moïse qu'il va provoquer une épaisse nuée sur le mont Sinaï. Il ordonne que les Israélites lavent leurs vêtements. Il donne 3 jours au peuple pour se préparer à l'événement. 3 jours pendant lesquels ils font rien d'autre que se préparer à la chose. Et Moïse ordonne même aux adultes de ne pas avoir de relations sexuelles. Donc c'était vraiment très particulier. Alors le troisième jour, on lit au verset 16, le troisième jour au matin, il y eut des coups de tolère, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Alors pour une communication, vous voyez, ça met dans l'ambiance, quoi. Tout le peuple saisi d'épouvante. Waouh. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. C'est important d'évoquer ça, une fournaise. Donc, il y avait quelque chose d'important qui allait se passer. Et toute la montagne tremblait avec violence. Autrement dit, il y a un tremblement de terre en même temps. Donc, ce n'est pas de la rigolade. On n'est pas là pour compter les fleurettes. On est là pour des choses sérieuses. Voilà. Et donc, on est au début du chapitre 20. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant... « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et donc, le premier commandement, alors j'espère que ça va marcher, voilà, c'est là, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point, alors j'ai pas la même traduction là, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Avec un long développement sur ce deuxième commandement. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Ensuite, enfin, un commandement positif. Tous les autres, vous voyez, ils commencent par « Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. » Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais de le faire. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. sixième. Ah, tiens, je clique et il se passe rien. Non, non, ne bouge pas. Ah, c'est fait exprès. Ah, c'est un truc. Voilà. Oh, prof, alors non, ça c'était pas prévu. Mais enfin, bref. Je voulais faire une séparation, bien sûr, entre le quatrième et le cinquième. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et tu ne tueras point, donc tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Et tu ne déroberas point, c'est la même chose. Hein, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son veuf, ni son âne, etc. Donc vous voyez qu'en fait, il y a deux commandements centraux, le 4 et le 5, qui sont des commandements positifs. Alors pourquoi, à votre avis, ça c'est une question facile, pourquoi je séparais les 4 premiers et 6 derniers ? Vas-y. Ouais. Et les autres concernent nos relations horizontales, comment se conduire entre humains. Effectivement. Alors, c'est un texte d'une portée fondamentale, car les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, s'y réfèrent. André Chouraki, qui est un grand spécialiste de la Bible, appelle le décalogue la déclaration universelle des devoirs de l'homme. C'est assez drôle comme expression. Si la plupart des personnes de bonne volonté s'accordent à trouver les six derniers commandements pas si mal que ça, par contre, là où le bât blesse, c'est que les non-croyants, ils pensent pas que les quatre premiers sont indispensables pour vivre les six derniers. Alors, on va en fait s'intéresser, écran noir, c'est normal, vous inquiétez pas, on va s'intéresser à un de ces commandements, mais je ne vous dis pas lequel. Donc, pour vivre ces 10 commandements, il faut bien sûr que quelqu'un nous aide, et vous savez qui c'est. Et j'ai pris un passage que Paul, dans Romains 7, qui est très connu, hein, bien sûr, c'est Romains 7, 14 et suivant. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et souvent nos prières tout à l'heure, c'était ça. C'était tout à fait ça. Bon. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc, ouf, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.
Et là,
ah non, alors je parlais que du Exode. Ça, tu peux lire à n'importe quel moment de la journée, ça marche. Ça marche parce que ça te concerne. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En clair, ce que Paul nous expose, bien sûr, c'est le cœur du paradoxe que vit chaque être humain, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs. On a des aspirations, les êtres humains ont des aspirations nobles. Quand vous écoutez n'importe qui dit quelque chose d'à peu près sensé, il vous dit « bah ouais, j'aimerais bien être quelqu'un de bien ». Il se fait une idée des belles choses, voilà. Mais malheureusement, dans la pratique, nous gémissons dans cette vallée de larmes, car les choses ne se passent pas comme nous l'avions imaginé. Et tous les jours, nous sommes en butte à des choses désagréables, comme le péché d'autrui, et puis aussi, il faut bien l'avouer, le nôtre. Je vous ferai grâce de parler des miens. Voilà, ça raccourcira la chose. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Quel beau programme que celui-ci. Le fruit de l'esprit, c'est entre autres plein de bonnes choses comme la patience, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, etc. Alors, parmi ces 10 commandements, il y en a un qui a un rapport avec dimanche prochain. Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? C'est la fête des mères. Voilà. Donc, on va parler du 5e commandement, honore ton père et ta mère. Mais, parlons de la fête des mères. La fête des mères trouve ses origines dans l'adoration de la mère qui était pratiquée en Grèce antique. Ce culte païen comportait des cérémonies en l'honneur de Rhéa, ou on appelle aussi Cybèle, qui était la mère de quelques dieux. On dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Et alors là, bien sûr, Jésus, il est insaisissable. Il dit, le second qui lui est semblable. Autrement dit, il met au même niveau le premier, qui résume d'ailleurs les 4 premiers commandements. Et le suivant, qui bien sûr résume les 6 autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, aimer son prochain comme soi-même, ça commence bien sûr au sein de la cellule familiale. Et c'est bien entendu là que c'est le plus difficile, le plus délicat, le plus exigeant. Si on a une relation saine avec ses parents ou avec ses enfants, les autres commandements concernant nos relations avec les autres seront beaucoup plus aisés. C'est pourquoi d'ailleurs il est placé en premier, si on regarde bien, dans la deuxième partie, dans les 6 commandements qui concernent nos relations horizontales, c'est le premier et le plus grand. Honore ton père afin que, ton père et ta mère, excusez-moi, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alors le mot hébreu, traduit par honorer, exprime une notion de poids. Autrement dit, il nous faut considérer nos parents comme valant leur pesant d'or, comme on dit en français. Alors là, je ne sais pas si c'est traduisible en anglais. Hein, on dit ça vaut son pesant d'or, c'est-à-dire ça vaut cher. C'est un commandement, c'est-à-dire que Dieu nous demande d'exercer notre volonté pour honorer nos parents, comme il demande d'aimer nos ennemis. Là aussi, ça demande un petit peu de volonté. Vous allez me dire, mais pourquoi je fais le rapprochement entre honorer ses parents et aimer ses ennemis? Eh bien, c'est parce que si les ennemis ne sont pas aimables, il arrive que certains parents ne soient pas honorables. Nombre d'entre nous ont des parents qui ne partagent pas notre foi, et quelques-uns s'opposent même parfois rudement à celle-ci. Contestent les choix d'un engagement dans l'Église, conteste le choix d'un conjoint chrétien et toute autre sorte de choses dont vous voyez ce que je veux dire. Alors, comment réagir? J'ai pu observer que même dans des familles chrétiennes, alors la mienne bien sûr ne l'était pas, hein, comprenez bien pourquoi je dis ça, j'ai pu observer que même dans les familles chrétiennes, les choses n'allaient pas de soi. Le péché rend difficile toute relation d'autorité, nous sommes toujours en bagarre avec notre ancienne nature, parents comme enfants. Alors le Seigneur ne nous demande pas d'attendre que nos ennemis soient aimables pour les aimer, ne nous demande pas d'attendre que nos parents soient honorables pour les honorer. Il s'agit plutôt d'exercer notre confiance en Dieu, car c'est lui qui en dernier ressort sera le juste juge de tout être humain. Je ne suis pas responsable de la conduite et des choix de mes parents. Je suis par contre en grande partie responsable de ma conduite, mais aussi de la conduite de mes enfants tant qu'ils sont socialement sous ma responsabilité. Et donc j'évoque très rapidement, parce que le temps nous est compté, les rapports complexes que nous avons dans nos familles. Nous sommes tous enfants de parents et beaucoup d'entre nous sont parents d'enfants. Et nous voyons cela quand Paul aborde la question de la qualification des anciens et des diacres. On voit cela dans deux passages, c'est 1 Timothée 3, 1 à 12, par exemple, et Tite 1, 6. Alors, j'aimerais quand même prendre le temps de citer premier, en tout cas. On dit, ça commence comme ça dans ma traduction, j'aime bien la Bible au Semeur, hein, je pense souvent dans cette traduction, « Celui qui aspire à être un dirigeant dans l'Église désire une belle tâche. » Cette parole est certaine. Donc, dirigeant, ici, c'est le mot ancien dans toutes nos Bibles traditionnelles. Il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi et vivant de façon convenable, qu'il soit hospitalier et capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au contraire aimable et pacifique. Que l'amour de l'argent n'ait sur lui aucune prise, qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance en toute dignité. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu'il ne se laisse aveugler par l'orgueil et ne tombe sous la même condamnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d'une bonne réputation parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quelque chose pour lequel je trouve qu'on ne réfléchit pas assez. On pense souvent en interne entre chrétiens. Afin de ne pas s'exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges du diable. Il en va de même des diacres. Grosso modo, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit que les responsables se séparent entre anciens et diacres. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le respect, qu'ils soient des hommes de parole sans penchant pour la boisson ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve. Ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, ils accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres. En ce moment, vous savez que dans l'Église catholique, le pape a commencé à essayer d'engager une réflexion pour que les femmes puissent devenir diacres dans l'Église catholique. Là, on en parle, il y a 2000 ans. Il en va de même pour les femmes diacres. Elles doivent inspirer le respect, qu'elles ne soient pas médisantes, qu'elles soient maîtresses d'elles-mêmes et dignes de confiance dans tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles, qu'ils assument bien leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants et de leur famille. Donc, on voit que Paul, en fait, attribue des points communs pour les anciens et pour les diacres. Un peu les mêmes qualifications. La seule différence, c'est la capacité d'enseigner, grosso modo, si on regarde bien. Chacun d'eux doit être un mari fidèle, un homme irréprochable. Il faut que les enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Ça, c'est Tite qui le dit, Tite 1-6. Chacun d'eux, les responsables doivent être des hommes irréprochables, des maris fidèles à leurs femmes, et que leurs enfants soient dignes de confiance. Au passage, on remarque que pour les femmes, on ne demande pas qu'elles soient fidèles. Apparemment, ça va de soi. Mais on demande de tenir sa langue quand même. Alors ça, je ne voudrais pas développer, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, réfléchissez à la chose. Alors, donc, ceci m'amène à distinguer nettement deux cas de figure dans les rapports parents-enfants. Celui des adultes et celui des enfants. Ah, quelle est la définition de l'adulte ? Alors là, ça dépend de la façon dont on se place. Un médecin vous dirait, un adulte, c'est quand toutes les fonctions du corps sont développées à maturité et que, on va continuer comme ça jusqu'à la mort, on va dire. Mais nous, on se place du point de vue sociétal, en fait. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être social, sociable, en tout cas. Si on prend la définition de l'adulte reconnue, je dirais, même chez les philosophes, c'est une question d'autonomie. Un adulte, c'est un être qui s'assume entièrement au regard de la société dans laquelle il évolue. Autrement dit, dans un pays du tiers-monde, on peut être adulte à 13 ans, peut-être même parfois moins, Et à l'opposé, dans un pays comme le nôtre, ça peut être à 25 ans, parfois plus. Quand Dieu donne les 10 commandements, il s'adresse aux adultes. Par contre, quand Paul dit dans Éphésiens 6:1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste », il s'adresse à des enfants, dans un contexte d'église, en nuançant son propos, selon le Seigneur, c'est-à-dire en conformité avec, avec la parole. Un petit peu comme pour les adultes, obéir à l'État tant qu'il ne contrevient pas à la loi de Dieu. Et cela m'amène à une observation de taille. Honorer ne veut pas dire forcément obéir. Honorer ne veut pas dire donc être d'accord avec nos parents en tout point. On peut être amené à des désaccords importants, voire à des conflits avec ses propres parents. Alors comment tenir l'équilibre? Je pense que pour bien comprendre ce que veut dire honorer ses parents, il faut se placer dans la perspective de Dieu pour notre vie. Dieu nous aime et depuis notre naissance, il a cherché à nous rencontrer. Il nous a donc donné des parents. Et c'est avec eux, grâce à eux, malgré eux et parfois contre eux, que nous nous sommes construits. Ils font, qu'on le veuille ou non, partie de notre vie et c'est pourquoi il est si difficile de les quitter, que ce soit pour fonder un foyer ou que ce soit par le deuil. Mais Dieu nous l'ordonne, si on crée un foyer, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ces paroles que nous trouvons dès la jeunesse sont capitales. Ne pas les comprendre, c'est compromettre la famille, le couple qui se forme. Je dois à la fois aimer, honorer surtout mes parents et à la fois les quitter physiquement, mentalement, moralement, corps, âme, esprit. Ce n'est pas de l'irrespect, c'est de l'ordre de la survie. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et Dieu le sait, et c'est pour ça qu'il nous y invite, qu'il nous ordonne, l'homme quittera son père et sa mère. De même, les parents doivent se préparer mentalement à être quittés par leurs enfants, et cela dès la petite enfance. Moi, ma maman, elle n'a pas compris qu'un jour, elle devrait me lâcher. Et j'ai commencé à le comprendre à la préadolescence. Et j'ai fait ce qu'il fallait de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que dès que j'ai pu, je suis parti très loin. À 17 ans et demi, j'ai mis 500 km entre ma maman et moi pour pouvoir me construire. Et le Seigneur était déjà peut-être là, sans doute, on va dire. Donc, Dieu me confie pour un temps seulement des enfants. Mon rôle de père, c'est de donner à mes enfants toutes les possibilités de devenir un adulte libre et pleinement responsable de ses choix. Allons plus loin. Ce commandement... honore ton père et ta mère, il est unique par rapport aux 9 autres. Question. Alors, question. La première était question blanche. Je ne sais pas si vous suivez le jeu des 1000 euros. J'allais dire des 1000 francs. Non, personne, bien sûr. C'est une heure où personne ne peut écouter la radio, sauf les enseignants. Toi aussi. Ah, bon, formidable. Donc, question bleue. C'est donc, qu'est-ce que ce commandement a d'unique par rapport aux 9 autres? Et vous le savez, la réponse à ce point. Qu'est-ce que ce commandement a d'unique par rapport aux 9 autres? Je reviens en arrière, si je peux. Est-ce que je peux? Normalement. Là, je peux. Ah, c'est pas écrit. Bon, je suis désolé. Alors. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est le seul commandement qui est auquel s'attache une promesse. Et celle de vivre vieux. Ah, c'est peut-être intéressant, n'est-ce pas? Enfin, moi, je dis ça, je suis très concerné. Mais, et oui, c'est le seul qui soit accompagné d'une promesse, celle de profiter de sa retraite. Et oui, puisque ma génération va travailler jusqu'à 62 ans et que la prochaine, ce sera plus, il vaut mieux prolonger le plus possible nos jours, n'est-ce pas? Alors, en conclusion, j'aimerais vous demander cette semaine de réfléchir à ceci. Comment répondre à ce commandement? Honore ton père et ta mère. Comment le manifester concrètement à mes parents? Françoise me disait souvent au début de notre mariage, il n'y a pas d'amour. Je n'arrêtais pas de lui dire que je l'aimais, bien sûr. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Les preuves, c'est quelque chose de concret, ça peut être très simple. Et moi, donc en 2008, j'ai vu la maman de Françoise décédée après son papa. Et je me suis dit, ben, moi et mes parents, ils vont suivre après, ça va être difficile. Et je me suis dit, mais honorer son père et sa mère, ça commence par les petites choses. Et donc, avant, depuis 30 ans, je téléphonais tous les 15 jours. Donc, j'avais deux contacts téléphoniques avec mes parents par semaine, puisqu'ils habitent en région parisienne. Et donc, j'ai commencé à prendre la décision unilatéralement de leur téléphoner tous les dimanches. Donc, depuis 2008. Et bon, au début, j'étais heureusement surpris. Je n'ai pas expliqué la vraie raison, celle que je pensais leur mort certaine et probable dans les prochaines années. Donc, c'était il y a 8 ans, ils sont toujours en vie, merci Seigneur. Et à l'époque, on venait de basculer sur la DSL. Alors j'ai dit, bah, maintenant, pour moi, le téléphone, c'est gratuit, c'est forfait illimité, machin, donc je peux vous téléphoner tant que je veux. Alors, c'est des anecdotes comme ça, mais voilà, maintenant, on ne perd plus une occasion d'aller les voir, parce qu'on sait que le temps est compté. Et donc, voilà, jeunes gens, jeunes filles, les moins jeunes, je vous lance un défi pour cette semaine de la part du Seigneur. Qu'allez-vous faire concrètement dans la durée pour, en espérant en vérité, honorer vos parents? Et donc, en conclusion, honore ton père et ta mère, ce mot d'ordre me donne la véritable dimension d'adulte ou de futur adulte, en ce sens que Dieu me place dans la chaîne de... Il est bloqué de la transmission de la vie, ça y est, c'est fait, avec une juste perspective. L'effet est trop, bon, trop sophistiqué, peut-être pour l'ordi ou... Il censure, tu crois? Il me rend indépendant de mes parents, mais avec le respect qui leur est dû. Et puis, en conclusion aussi, il m'enseigne à élever mes enfants en ne les considérant pas comme une propriété, mais comme un adulte en formation. Voilà. J'ai été court, c'est bien. On va prier quand même pour cette semaine et ce mot d'ordre. Seigneur, nous voulons en effet te remettre nos vies de parents, nos vies d'enfants aussi, pour te demander que nous soyons au jour du jugement irréprochable, devenus plus proches de tes pensées, plus proches de la conduite que tu veux que nous ayons vis-à-vis de nos parents. C'est vrai que parfois on est dans des situations très difficiles les concernant, mais nous te demandons de leur manifester du respect, de, non pas de l'obéissance, mais du respect pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous ont apporté. Et nous allons te demander aussi d'être de bons parents, de bons grands-parents aussi pour certains d'entre nous, afin de t'honorer. Amen. Amen.